Pourquoi dire que le Christ est ressuscité selon les Écritures? Rappelez-vous le récit des pèlerins d'Emmaüs. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Se souvenant de cette toute première catéchèse donnée par le Christ lui-même aux disciples d'Emmaüs, les apôtres ont tout de suite cherché les textes de l'Ancien Testament qui annonçaient la passion et la résurrection de leur maître. L'auteur du psaume 16 chante par exemple son espérance que Dieu ne le laissera pas pourrir dans une tombe, mais qu'il sera éternellement heureux devant la face de Dieu. Cette espérance ne s'est pas réalisée en David, explique Paul. On pensait alors que David était l'auteur de ce psaume, mais elle s'est accomplie en Jésus. Les premiers chrétiens se sont plus également à trouver dans le chapitre 53 d'Isaïe l'annonce des souffrances que devait connaître le serviteur de Yahvé. Il sera comme un agneau qu'on traîne à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Il sera retranché de la terre des vivants, mais grâce à ce sacrifice d'expiation, il aura une merveilleuse descendance. Les apôtres ont réalisé après Pâques que Jésus pensait très probablement à ce texte lorsqu'il leur avait dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. » C'est le mot d'Isaïe 53. « Donner sa vie en rançon pour la multitude des hommes. » Il est fort probable que sur la route d'Emmaüs, Jésus ait commenté ce texte pour montrer aux disciples découragés qu'ils ne devaient plus s'étonner du drame qui venait de se passer à Jérusalem. Le prophète galiléen qui venait d'être crucifié pouvait être le Messie annoncé par les prophètes, puisqu'un chapitre d'Isaïe avait annoncé qu'un jour viendrait où le serviteur du Seigneur souffrirait beaucoup de la part des siens, qu'on le prendrait pour un homme abandonné, meurtri par Dieu et humilié, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. C'est le passage de l'Écriture qu'utilisa d'ailleurs le diacre Philippe pour catéchiser l'eunuque éthiopien qu'il avait accueilli dans son char. Il y a un texte que Jésus lui-même a commenté pour répondre aux critiques de ses adversaires. « Vous me reprochez, leur dit-il en substance, de me présenter à la fois comme Messie et comme ne faisant qu'un avec Dieu. Mais lisez le psaume 109, on y voit Dieu lui-même s'adresser au Messie en l'appelant Seigneur et en lui demandant de s'asseoir à sa droite. Nos livres saints annonçaient donc déjà que le Messie avait quelque chose de divin. Ne me reprochez donc pas mon langage, mes prétentions. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres que j'accomplis au nom de mon Père. C'est le Père qui les fait en moi. » On comprend dès lors que dans leur toute première catéchèse, les chrétiens affirmaient « Le Christ est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » C'est l'enseignement que Paul reçut comme catéchumène à Damas et qu'il transmit à la communauté de Corinthe. Le credo du concile de Nicée, comme le symbole des apôtres, ont repris ces trois mots selon les Écritures. Il rappelle la continuité profonde qui relie l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus n'est pas arrivé sur terre comme un électron libre venu du ciel. Il a été attendu pendant des siècles par tout le peuple d'Israël et il n'a pas manqué de le dire dès sa première prédication dans la synagogue de Nazareth. D'entrée de jeu, il s'identifie au serviteur de Yahvé qui parle à quatre reprises dans le livre d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. » Ayons à cœur de lire les textes de la première alliance en y voyant une merveilleuse annonce toute discrète qu'elle soit, de ce que le Messie devait réaliser parmi les hommes quand l'heure en serait venue. Et soyons heureux d'être nés au bon moment. Paul s'en émerveille plus d'une fois. Dans sa future apologie de la religion chrétienne, Pascal pensait accorder une place importante à cet accord merveilleux entre les prophéties de la première alliance et leur réalisation en Jésus-Christ. Il y consacre plusieurs liasses de ses pensées.